Bien chers frères et sœurs, dans la péricope que nous venons d'entendre, Jésus ne donne pas de réponse pour l'heure de la fin du monde. Il dit au contraire que les faux prophètes, les catastrophes et les persécutions n'ont pas de relation directe avec la fin du monde. Nous trouvons néanmoins, de l'Église primitive jusqu'à nos jours, des chrétiens qui attendent la parousie dans l'immédiat. Dans notre deuxième lecture, saint Paul s'adresse à certains Thessaloniciens de ce genre pour leur dire comment il faut attendre la parousie. Qu'est-ce qu'il leur conseille ? Des prières supplémentaires, des jeûnes ou des pénitences. Il écrit « À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. » En attendant la parousie avec ses bouleversements, il faut donc deux choses, du calme, beaucoup de calme, et du travail pour ne pas être à la charge d'autrui. L'attitude des Thessaloniciens n'est plus actuelle aujourd'hui. Eux, ils voulaient jouir de leurs biens et surtout de ceux des autres, avant que tout soit perdu. Les chrétiens d'aujourd'hui qui attendent la fin du monde pour bientôt travaillent en acceptant les conséquences du péché originel et en participant aux souffrances du Christ, ce qui est à moitié vrai, mais je ne vois aucune relation de ce travail avec la fin du monde. Notons qu'il s'agit toujours du travail manuel sous un aspect négatif. Ainsi, les premiers moines au désert faisaient des nattes la nuit et le jour, ils les défaisaient. La source principale de cette vue négative du travail vient du néoplatonisme très en vogue au premier siècle et qui avait aussi atteint l'Église. On méprisait le matériel et soupçonnait derrière le progrès qui en résulte le diable. Voici un exemple. Au XVIIe siècle, le roi d'Espagne songeait à canaliser un fleuve. Il créa deux commissions, l'une d'ingénieur, l'autre de théologien. Après un certain temps, la première remit des plans précis. La seconde déclara que si Dieu avait voulu ce fleuve navigable, il l'aurait créé tel. Nous n'en sommes plus là, ou tout au moins, on ne consulte plus des théologiens pour construire un canal. Mais la mentalité anti-progrès survit. En 1864, Pie IX déclara dans son fameux syllabus « Le pontife romain ne doit pas se réconcilier avec le progrès. » J'aimerais bien savoir ce qu'il penserait de l'utilisation de l'ordinateur. Mais revenons au travail manuel. Pendant tout le Moyen-Âge, les œuvres serviles ou mécaniques étaient interdites le dimanche, tandis que les travaux d'un avocat, par exemple, étaient licites. De ce fait, Les casuistes postérieurs ont permis la broderie le dimanche, mais condamné le tricot. Sous cet aspect, je peux parler encore longtemps du travail, mais faire la cuisine après sera à la limite. Or, quand je dis que c'est à moitié vrai que le travail pénible est une conséquence du péché originel, je dois préciser qu'il ne s'agit pas du travail comme tel, mais de sa pénibilité. Le travail constitue une loi naturelle de la condition humaine. L'homme, fait à l'image de Dieu créateur, doit réaliser l'image de l'activité de Dieu. Paul, s'insérant dans la tradition juive, considérait le travail comme une tâche confiée à l'homme par Dieu dès le paradis. Le travail permet de maîtriser et de perfectionner l'œuvre de la création. Dans cette tradition, Jésus a presque toute sa vie passé en travaillant de ses mains. Depuis sa victoire pascale, le travail a retrouvé sa dimension spirituelle. Ce que le premier Adam n'a pu accomplir, le nouvel Adam et tous ceux qui s'incorporent à lui, nous tous, sont capables de le faire. Cette vue positive du travail a toujours existé dans l'Église. Pensons à saint Paul, aux premiers moines qui ont assez vite découvert qu'au lieu de défaire leurs nattes, ils pouvaient les vendre et donner le bénéfice aux pauvres. Souvenons-nous des premiers cisterciens qui s'opposaient aux bénédictins de Cluny, pour lesquels le moine ne doit que s'occuper de la liturgie, de la lecture et de la méditation, tandis que le travail pouvait être délégué aux serfs. Contre cette attitude, les cisterciens brandissaient la parole « Labor manuum non obest, sed protest contemplationi ». Le travail n'empêche pas, il favorise la contemplation. Il est très frappant de retrouver cette idée dans la Constitution Gaudium et Spes de Vatican II, où nous lisons « Les chrétiens en marche vers la cité céleste doivent rechercher et goûter les choses d'en haut, mais cela, pourtant, loin de la diminuer, accroît plutôt la gravité de l'obligation de travailler à la construction d'un monde plus humain. » Numéro 57. Et, lorsque l'homme cultive la terre, il réalise le plan de Dieu de dominer la terre et d'achever la création. Numéro 67. En d'autres mots, et selon saint Paul, nous pouvons dire que par notre travail, nous participons à l'œuvre du Christ, amener la nouvelle création à son achèvement. Amen.